Le monde au féminin.
Hey you, over there, please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Côte d'Ivoire, un père de famille a été inculpé pour le viol de ses 5 enfants âgés de 3 à 13 ans auxquels il faisait consommer de l'ecstasy. Son frère a également été inculpé pour viol commis par un ascendant. Leur inculpation fait suite à une plainte de la mère des enfants qui ont confirmé avoir subi les assauts sexuels de leur père et de leur oncle. Cette arrestation est intervenue une semaine après la diffusion d'une émission télévisée faisant l'apologie du viol. L'animateur Yves Dembella avait invité sur la chaîne privée NCI, censée dénoncer le viol, un ancien violeur à qui il avait demandé d'expliquer comment il s'y prenait pour abuser de ses victimes en s'aidant d'un mannequin devant un public goguenard. Yves Mbella a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour apologie du viol et son invité a écopé de 2 ans de prison ferme. En République démocratique du Congo, 2 femmes accusées de sorcellerie ont été lynchées le 12 septembre par des membres de la famille d'une femme décédée dans le village de Missisi en territoire de Fizi dans l'est du pays. Les cas de justice populaire sont récurrents dans la région en dépit des campagnes de sensibilisation pour que la population cesse de se rendre justice, selon Jean de Dieu Sélémani, administrateur du territoire. Depuis janvier, 5 cas ont été recensés visant des personnes accusées de sorcellerie, dont un jeune homme de 22 ans brûlé vif par des habitants dans le centre de Fizi. Ici aux États-Unis, une Américaine condamnée pour sorcellerie lors des procès de Salem au XVIIe siècle pourrait se voir amnistiée grâce aux efforts d'un groupe d'élèves de l'État du Massachusetts. Elizabeth Johnson Jr., qui vivait à North Andover, avait été condamnée à mort en 1693. Graciée, elle n'a pas été exécutée, mais contrairement aux autres condamnés, elle n'a jamais été innocentée par la justice. Dans leurs recherches, les collégiens ont trouvé que Madame Johnson avait été accusée de sorcellerie parce qu'elle était célibataire et avait peut-être un handicap mental. Ils ont écrit des lettres aux élus locaux et aidé la sénatrice Diana DiZoglio à rédiger un projet de loi pour réhabiliter Elizabeth Johnson Jr. Plus de 150 personnes, principalement des femmes, ont été accusées de sorcellerie entre 1692 et 1693. Lors des procès de Salem dominés par la superstition, 30 furent jugés coupables et 19 furent pendus. Près de 20 ans plus tard, en 1711, les accusés furent innocentés, sauf Elizabeth Johnson Jr.
Parole de femme.
Dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, une jeune éco-entrepreneur s'est lancée dans le recyclage des bouteilles en plastique pour lutter contre l'insalubrité. Nicole Menemen, 28 ans, a même construit une maison écologique avec ses bouteilles usagées. Son entreprise Plasticor revalorise les déchets plastiques en fabriquant des paniers multi-usages. Notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero, l'a rencontré.
C'est au bord du lac Kivu, dans la concession de prêtre à Katana, que Madame Nicole Menemene a pu réaliser son rêve, celui de construire une maison écologique. Plus de 18 000 bouteilles plastiques usagées ont été ramassées dans la capitale du Sud Kivu, puis révalorisées dans cette bâtisse. Nicole Menemene, initiatrice de Plasticor RDC, explique.
L'idée derrière Plasticor, c'est de transformer ce que nous jetons, ce que nous répugnons, ce que nous ne voulons pas voir, donc les déchets, de les transformer en quelque chose de beau, d'agréable aux yeux, mais aussi de très utile. Donc on a sauvé plus de 18 000 bouteilles plastiques juste avec cette seule bâtisse. C'était une très très grande réalisation et ça a pris autour de 3 mois vraiment, 3 mois de construction.
Plasticor, c'est avant tout la passion d'une dame et son équipe de contribuer à la lutte contre l'insalubrité à travers le ramassage sélectif de bouteilles plastiques. Des déchets qu'elle révalorise en objets artistiques, utilitaires et de décoration, comme ces murs élevés en bouteilles plastiques, ces bouquets de fleurs et surtout les paniers multi-usages déjà adopté par le Bukavien. Christian Bichikwabo, habitant de Bukavu, est fier de ses œuvres produites localement.
Ces bouteilles, ce sont des déchets qu'on ramasse dans les lacs, dans les riz, et ça pollue vraiment la nature, mais quand on le récupère et on en fait quelque chose d'utile, c'est vraiment très important. Elles sont vraiment pratiques parce que ça permet à ce que Bukavu soit propre et que nous contribuons indirectement à protéger notre environnement.
La gestion des déchets est une question complexe. De ce fait, l'initiatrice des Plasticor appelle à une synergie d'efforts et un changement des comportements au sein de la population. Nicole Menemene.
Je vais d'abord appeler les habitants de Bukavu à une consommation responsable face aux déchets, mais aussi à ceux-là qui peuvent nous soutenir d'une manière ou d'une autre, le gouvernement, les organisations non gouvernementales, de nous tenir la main pour qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure on peut booster les objectifs de développement durable dans lesquels la gestion, la bonne gestion des déchets se retrouve aussi.
En attendant, l'équipe Plasticor continue les ramassages des bouteilles usagées pour leur accorder une seconde vie. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Je vous propose de partir à la rencontre d'une femme à la carrière hors norme, Germaine Akoni, danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise, qui a reçu plusieurs distinctions, dont le Lion d'or de la Biennale de Venise. Alison Lekogo Fernandez l'a rencontrée. On écoute son reportage.
C'est un rituel qu'elle accomplit chaque matin, marcher le long de la mer et méditer sur la plage, dans ce village de pêcheurs à une cinquantaine de kilomètres de Dakar. À 77 ans, Germaine Akoni est connue dans le monde entier comme la mère de la danse contemporaine en Afrique. Compagne de route de Maurice Béjart et figure de proue du spectacle vivant, elle vient de recevoir l'une des plus prestigieuses distinctions mondiales dans son domaine, le Lion d'or de danse.
J'en suis très fière, surtout dans ces temps moroses. Le succès, moi j'ai pas viser le succès. C'est le plaisir de travailler, l'amour de la danse, et aussi quand on prend une décision dans la vie, il ne faut pas lâcher.
Native du Bénin, Germaine Akoni a grandi au Sénégal, où elle a monté il y a plus de 20 ans une grande école de danse avec son mari. L'école des Sables est aujourd'hui une institution en Afrique. Elle offre des formations quasi gratuites à des danseurs venus de tout le continent.
La plupart des grands danseurs africains ou chorégraphes qui tournent dans le monde, qui viennent d'Afrique, du continent, ont été formés à l'École des Sables. Donc c'est comme un répertoire, c'est comme une référence en fait sur l'Afrique.
Et pourtant, malgré sa réputation, l'école est en grave difficulté financière. Jusqu'à maintenant, elle a tenu en grande partie grâce aux subventions étrangères. Germaine Akoni souhaiterait que l'État sénégalais lui permette désormais de pérenniser sa structure.
On dit qu'on n'est jamais prophète dans son pays. Mais comme je disais aussi, qu'arriver à 11 fois l'âge de raison, 77 ans, je sais que la vie, c'est un combat perpétuel. Je sais que l'État ne peut pas tout faire, mais nous formons des danseurs. C'est quand même une fonction qui est reconnue ici au Sénégal et mondialement.
Sous forme de stage intensif, l'École des Sables a formé plus de 700 danseurs depuis sa création, essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
monde au féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Les footballeuses et footballeurs de l'équipe nationale d'Irlande reçoivent désormais les mêmes salaires. L'équipe masculine a accepté de diminuer le montant touché par les joueurs lors de chaque rencontre afin de pouvoir augmenter le salaire des joueuses, indique la Fédération irlandaise de football. Le capitaine de l'équipe nationale masculine, Seamus Coleman, a dit que les joueurs sont heureux de contribuer à l'égalité salariale dans le sport. Les primes de qualification au tournoi sont également soumises à ce principe. L'Angleterre, le Brésil, l'Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande font partie des pays qui se sont engagés à payer les équipes hommes et femmes de la même façon.
Si jeunesse pouvait.
Le lycée Philippe Zinda Kabore de Ouagadougou, le plus grand établissement du Burkina Faso, a été fermé pour cette année scolaire. Une décision du gouvernement qui déplore le vandalisme des élèves ayant occasionné la dégradation du mobilier et de la bureautique pendant les grèves des élèves. Les enseignants y voient une décision politique qui menace le système éducatif. Un reportage de Kader Traoré à Ouagadougou.
Nous sommes devant le lycée Philippe Zinda Kabore de Ouagadougou. Les portails sont bouclés à double tour, alors que généralement à cette période, l'établissement grouille du monde. Les uns pour inscrire de nouveaux élèves, les autres pour récupérer un document administratif. Le tout dans un balai incessant de va-et-vient. Mais à l'heure actuelle, c'est un silence de cathédrale. Depuis le 25 mai 2021, le gouvernement a décidé de la fermeture de cet établissement d'environ 4000 élèves répartis dans 75 salles de classe. Une décision réaffirmée le 27 août. La raison, ce sont les faits de grève des scolaires ayant entraîné des actes de vandalisme.
Le lycée Zinda a été saccagé et aujourd'hui il n'est pas fonctionnel. Et donc qu'on dise ou pas que c'est fermé, il est malheureusement fermé.
Stanislas Waro, ministre en charge de l'éducation nationale.
C'est ce constat qui a été fait par le gouvernement et qui a décidé que cet établissement reste fermé parce que malheureusement tout a été détruit. Le serveur contenant les données des enfants emportés, les fiches des enseignants saccagées, des ampoules détruites et tout.
Un avis que ne partage pas le personnel du lycée qui a été créé en 1953 et qui porte le nom d'un ancien député voltaïque au Parlement français décédé en 1947 à l'âge de 26 ans. Karim Touzakoué en est le délégué. Le
ministre Memaï dit que les enfants ont cassé tous les bureaux des anciens. Ça c'est faux et je maintiens mes propos. Aucune raison ne justifie la fermeture du lycée Philippe Zinda Kabore. Les tables sont là. Les bureaux des anciens sont là. Les données sont là. Le lycée Philippe Zinda Kabore est fonctionnel. Peut-être qu'il y a un agenda caché.
Pour éloger les quelques 4000 élèves, le gouvernement les a autorisés à s'inscrire dans d'autres établissements publics de leur choix. Mais les parents sont confrontés à des disponibilités de places dans les collèges d'accueil.
Mon enfant fait la classe de 6e, donc il devrait aller en 5e.
Isaka Kabore est un parent d'élève du Zinda.
Avec la fermeture, on est allé au niveau du Passepanga. C'est déjà plein. Nous sommes allés au Nelson, c'est déjà plein. Alors, on propose même à certains même d'aller à certains CG, ils sont encore plus distants que le Zinda.
Les principaux concernés, les élèves, eux, ne comptent pas baisser les bras. Ils refusent d'admettre la fermeture de leur établissement. Wilfried Tiembiano est un élève du lycée Philippe Zinda Kabore.
Le ministre sort lui-même nous dit que ses élèves seront orientés dans les lycées de leur choix. Alors qu'on force nos camarades à partir dans les lycées, c'est désolant. Ce qui est dit aux enfants du peuple n'est pas ce qui sera fait. Sortons tous, luttons tous pour ne pas que le Zinda se ferme.
Même le corps professoral subira aussi des affectations. Si les élèves, eux, ont le choix entre les collèges de la capitale, ce ne sera pas le cas des enseignants. Ils seront affectés sans doute pour nécessité de service. Louis Canzier est professeur d'histoire et géographie au Zinda.
Deux semaines de la rentrée, et on vous envoie quelque part, vous voyez tout ce que ça crée comme désagrément parce que vous êtes préparés à rester ici. Si on vous prévenait peut-être 2-3 mois à l'avance, vous pouvez prendre des dispositions pour partir. Mais à la rentrée, on ne sait même pas où vous serez. On est désorientés.
Si tant est que l'argument du gouvernement est la réflexion du lycée Philippe Zinda Kabore, il y a comme un gros signal qui est donné à tous les établissements secondaires que si les grèves prennent le pas sur les études, une éventuelle fermeture serait imminente aux élèves d'en tirer les leçons. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
En Guinée, de nombreuses mères conseillent à leurs filles d'adopter des méthodes contraceptives pour éviter d'être enceintes. Un aperçu sur la question de la sexualité et la santé reproductive avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Par exemple, au mois d'août 2020, en implant, on a eu 21 jeunes.
Une statistique qui évolue d'un centre à l'autre. Esther Collier, chargée de la planification familiale au centre médical communal de Ratoma.
On a d'abord une salle d'accueil. C'est là-bas qu'on fait la causerie éducative. Maintenant, c'est de là que les femmes vont peut-être choisir personnellement avant de rentrer dans la salle de PF. Après la causerie, les femmes vont venir. Parce que là-bas, la salle est pleine. Elles ont honte de choisir. Nous sortons avec ça. Il y a toutes les méthodes que le CMC de Ratoma dispose.
Toutes ces filles ont peur de porter une grossesse. Et dans la plupart des cas, c'est la maman qui décide. Catherine Kamano, célibataire.
Ma maman qui m'a conseillé, elle m'a dit comme je ne suis pas mariée d'abord, pour ne pas que je sois comme certains de mes camarades, d'utiliser les contraceptifs.
Parmi les méthodes utilisées, il y a l'antibale, car c'est ainsi qu'elles appellent l'implant qui leur évite des grossesses non souhaitées. Mais après l'opération, certaines n'hésitent pas à se laisser aller à des rapports non protégés.
Comme on était d'accord, j'avais confiance en lui, donc il n'y avait pas l'idée là qui venait pour l'utilisation des préservatifs. Parce que c'est avec un homme donc que j'ai évolué plusieurs temps.
Cette relation de confiance expose à des risques d'infection, alerte Esther Collier, chargée de la planification familiale au centre médical communal de Ratoma.
Une fois, j'ai dit à un jeune ici de faire le test avant que je ne le planifie. J'ai dit parce que il a su maintenant que sa fille, son partenaire ne va pas tomber enceinte, donc il va la prendre à tout temps. Je dirais que je savais, il a transpiré. Il était séropositif.
Antibale, un langage des adolescents pour décrire un phénomène de société qui relance le débat sur l'éducation sexuelle en Guinée. Abou Diallo, président du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale.
Il y a l'absence totale de l'éducation complète à la sexualité dans les curricula de formation. Il y a également l'absence totale de dialogue entre parents et les enfants sur la sexualité. Ce qui fait que la majorité de ces jeunes-là se lancent dans la sexualité sans pourtant avoir les informations nécessaires. Et ça aboutit à beaucoup plus de conséquences.
Les jeunes représentent la majorité de la population guinéenne. Les sujets sur la sexualité restent encore tabous dans plusieurs familles à cause des pesanteurs socioculturelles. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 8 policiers et 11 militaires ont été condamnés en appel à des peines de 12 mois à 20 ans de prison ferme pour des viols commis principalement sur des mineurs. Ils ont également été condamnés au paiement de dommages et intérêts à l'issue d'une audience foraine fin août à Walungu. Les victimes sont des enfants entre 3 mois et 17 ans et des femmes qui ont été arrachées aux mains de leurs époux ou violées devant leurs frères et leurs enfants, a expliqué le colonel magistrat Innocent Mayembe Sangala, premier président de la cour militaire du Sud Kivu. Les viols ont été commis entre 2016 et 2021, notamment au camp militaire de Sayo, à Bukavu et dans les territoires de Walungu, Kabare, Uvira et Fizi. La fondation Panzi du docteur Denis Mukwege s'était portée partie civile au procès. au Bénin, le gouvernement donne un nouveau souffle à l'Institut national pour la promotion de la femme. L'institution va être réformée pour mieux répondre aux préoccupations féminines. La priorité sera de prévenir les violences sexistes. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Floradandé.
L'Institut national de la femme va succéder à l'Institut national pour la promotion de la femme créé en 2009, mais qui n'a pas su donner les résultats attendus. Le gouvernement a donc décidé de le réorganiser pour plus d'autonomie au niveau juridique et financier. Wilfried Léandre Ngwedi est le porte-parole du gouvernement.
L'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socioculturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan.
Les femmes accueillent la nouvelle avec joie et la considèrent comme une victoire après tant d'années de lutte.
Ce qui va permettre à cet institut de mieux gérer les violences faites aux femmes et toute forme de discrimination faite aux femmes.
Le chef de l'État vient confirmer sa stratégie à lutter contre les inégalités sociales et à hisser le Bénin à l'échelle des grandes nations.
Et je remercie aussi le chef de l'État parce que depuis un bon moment, tout est mis en place pour revaloriser la gente féminine.
C'est un geste très fort et c'est un grand pas.
C'est le début d'une révolution, c'est la concrétisation déjà d'une révolution. Nous remercions vraiment le chef de l'État. Nous savons qu'on va y arriver.
Les missions assignées à l'Institut sont nombreuses. Elles vont de la promotion de la femme sur tous les plans, économiques, politiques, sociales, juridiques et culturelles, tant dans la sphère publique que privée. Pour Dr Yvette Loubogan, présidente de l'Association béninoise des femmes scientifiques, mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement a compris l'urgence de redonner à la femme à travers cet institut toute sa place au sein de la société.
Pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que finalement, le gouvernement jette un regard sur ce qui se passe au niveau de l'institut. Et je trouve que c'est bien plus précis que ce qui avait comme attribution au départ.
Dans un contexte marqué par les violences basées sur le genre, la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme, l'Institut de la femme reste une bouée de sauvetage pour toutes les femmes qui souffrent en silence, pense pour sa part le sociologue Ernest Kakbo.
Avec cet institut, les femmes auront leur mot à dire et vont comprendre mieux leur participation au développement.
Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons davantage mettre l'accent sur l'éducation. Quand on n'a pas éduqué, on ne peut pas espérer un développement.
Les femmes leaders du Bénin prennent l'engagement de mettre au service de l'Institut les réflexions, les actions et les résultats dans les domaines de la paix et la sécurité, la participation politique, l'inclusion financière, l'autonomisation des femmes rurales, le leadership des jeunes femmes, ainsi que la mobilisation sociale. De Cotonou, Nature a donné pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.